voir toujours sur IDFM avec toute la culture que j'aime. Pour cette émission, eh bien, je vais aller au théâtre, hein, comme d'habitude, chers auditeurs. Vous allez me suivre, j'espère. Théâtre du Studio Héberto pour deux pièces sur l'amour. Eh oui, Apollonie, cette fameuse muse, et Baudelaire, ça c'est au Studio Héberto. Et puis la marraine amoureuse, également au Studio Héberto. Et puis nous irons du côté de Montmartre ensuite, à la Halle Saint-Pierre, pour une exposition fabuleuse sur l'art brut en Iran. Mais avant ça, on écoute Last Dance, Donna Summer. Toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Last Dance de Donna Summer. Et maintenant, je me dirige au Studio Héberto. Nous allons parler de Apollonie et Baudelaire avec le metteur en scène Georges-Marie Abou. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, donc Apollonie et Baudelaire, vous allez nous en dire plus, parce que finalement cette Apollonie, cette femme qui a posé au 19e, hein, dans les années 1850, pour la fameuse statue, la femme piquée par un serpent, alors sculpture, si je ne dis pas de bêtises, d'Auguste Clésinger, voilà. D'ailleurs, la statue est actuellement au musée d'Orsay. Mais bon, Bref, Charles Baudelaire, en tout cas, est tombé. Voilà, cette sculpture l'a totalement inspiré, Baudelaire. Et pendant 5 ans, ils se sont écrits des lettres. Enfin, en tout cas, il lui a envoyé des poèmes d'amour à Polony. Bon, vous allez nous éclairer. On pense qu'il y a eu, quand même une relation, hein, entre eux. 10 lettres, d'ailleurs, paraîtront dans Les Fleurs du Mal. Alors, le spectacle, c'est ça, en fait. Elle raconte le dénouement de, enfin, en tout cas, cet étrange amour. Oui. Alors, décor magnifique, costume sublime étincelant. On se demande quand même si, est-ce que finalement, cette Apollonie, est-ce qu'elle a autant marqué Baudelaire, Georges-Marie?
Alors ça c'est compliqué à répondre. Ce qui est sûr, c'est que, comme vous avez dit, Baudelaire est tombé amoureux de sa beauté, de sa personnalité. Il lui a effectivement envoyé des lettres et des poèmes d'amour, dont 10 sont parus dans Les Fleurs du Mal en 1857. Et Baudelaire a entretenu cette relation d'une façon cryptée, c'est-à-dire qu'il lui a envoyé des lettres avec une écriture falsifiée, et donc Apollonie a donc dû deviner que c'était lui qui lui envoyait, parce que Baudelaire venait aux réunions, parce qu'Apollonie présidait un salon littéraire où il y avait de multiples artistes de l'époque, peintres, sculpteurs, romanciers, comme Théophile Gautier, et en fait Baudelaire venait à ces réunions du dimanche soir, et faisait comme si de rien n'était. Voilà. Et donc, pendant un certain temps, il y a eu cette relation un peu étrange, comme vous dites, entre Baudelaire et Apollonie, où Baudelaire disait tout son amour, son admiration pour Apollonie. Et Apollonie, il faisait que ça, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'était une relation comme ça, qui était ambiguë, cryptée, etc. Mmh. Et Apollonie, pour n'avoir le cœur net, lui a donné un rendez-vous au Jardin des Tuileries. Et là, Baudelaire lui a renvoyé un poème qui était un peu évident, comme quoi, effectivement, il faisait allusion à ce rendez-vous. Donc, Apollonie, pour elle, il n'y avait plus aucun doute, c'était lui. Mais toute cette fable a duré entre eux encore quelques temps, jusqu'à ce que la parution des Fleurs du Mal donne un prétexte à Apollonie pour l'inviter. Voilà.
Ouais, ouais. Parce qu'elle était mariée. Enfin, en tout cas,
elle n'était pas vraiment mariée. Apollonie, c'est une jeune femme intelligente, très belle, et qui a provoqué chez les peintres, les sculpteurs, comme ça, une espèce de fascination. Mais elle était la maîtresse de Alfred Mosenmann, qui était un riche propriétaire, un riche industriel du 19e siècle, vraiment au cœur du pouvoir napoléonien. Et donc, Mosenmann l'a installée comme une maîtresse vraiment particulière, quoi. C'est-à-dire, c'était sa préférée. Mosenmann était un homme à femme, il avait une femme en Belgique, et on peut voir un très beau tableau avec lui et ses deux filles. Mais Apollonie, c'était sa préférée, et ils sont restés quand même 17 ans ensemble. La relation avec Baudelaire est arrivée, on peut dire, à un moment donné de la relation entre Alfred Mosenmann et Apollonie, qui, si elle a été touchée par Baudelaire, c'est qu'en fait, elle aspirait à un amour plus idéal, un amour plus éthéré, et ce qui lui a fait croire Baudelaire dans ses poèmes qu'il lui envoyait. Elle a cru qu'elle était face à son idéal vraiment de ce qu'elle recherchait. Ouais. Voilà.
Alors la pièce est d'ailleurs tirée d'un livre, puisqu'il y a eu un livre, j'étais assez étonnée, il y a eu un livre qui s'appelle, alors vous avez inversé, voilà. Le livre s'appelle Baudelaire et Apollonie de Céline de Bayle. Hein.
Oui, c'est ça.
Alors, comment vous êtes tombé? Comment d'abord vous avez eu l'idée de monter ce spectacle? Vous êtes tombé sur le livre ou?
Alors, la rencontre avec Céline de Bayle est une rencontre assez amusante parce qu'en fait, comment on peut dire ça? Je l'ai rencontré justement au studio Héberto le soir de première. Et elle est venue me voir et elle m'a dit « Je cherche une voiture pour aller à Montparnasse ». Et je lui ai dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle m'a dit « Il y a une grève de taxi ». Et en fait, je la connaissais pas et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Si on n'avait pas eu de grève de taxi, en fait, on n'aurait jamais échangé ensemble. Et elle a eu le temps de me dire qu'elle avait écrit un livre, donc « Baudelaire et Apollonie ». Et j'ai été intrigué, quoi. Donc, j'ai acheté le livre et je l'ai beaucoup apprécié. Je lui ai fait remarquer sur Internet que j'avais beaucoup apprécié le livre. Et un an après, elle m'a proposé d'en faire une adaptation. Vous voyez? Et donc, on peut dire que moi, j'ai amené la partie théâtrale et elle, la partie roman, le fond, quoi. Donc, moi, la forme, elle, le fond. Et on a très bien travaillé ensemble pour cette adaptation.
Voilà. Formidable, parce que c'est vrai que là, il y a vraiment de quoi à faire un magnifique spectacle qui est très intéressant, parce que alors on bien sûr il y a la lecture de poèmes, hein, de ces fameux poèmes adressés à Polonie, et puis il y a quand même cette belle histoire d'amour entre eux.
Ce qui m'a intéressé, moi, dans le roman et la relation amoureuse entre Charles Baudelaire et Apollonie Sabatier, c'est en fait que, à travers leur aventure, à travers leur confrontation, on a une vraie confrontation entre le désir et l'amour. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose de très fort à travers leurs lettres, à travers leurs échanges, etc. Et que a sublimé, en fait, Céline de Bell dans son roman, à travers de belles idées que je ne veux pas révéler, parce que là, sinon, je révèle trop le contenu de la pièce. Mais c'est quelque chose où, en fait, on est vraiment pris dans cette confrontation, dans cette problématique du désir et de l'amour, quoi. Voilà.
Oui, pas tout trop à en fait. Dire. Non, on révèle pas tout. Oui. Alors, la mise en scène, je disais tout à l'heure, hein, des lectures de poèmes que l'on ne connaît pas forcément. Ouais. Je pense à, alors il y a Tout entière, il y a Le flacon.
Oui, alors dans l'adaptation, on a essayé de mettre pas mal de références évidemment à l'œuvre de Baudelaire et de faire entendre certains extraits de poèmes, etc. Mais d'une manière théâtrale, de manière à ce que ça se pèse pas, parce que les poèmes au théâtre c'est très dangereux parce que ça peut très venir lassant. Donc en fait, il y a des évocations, il y a des extraits qui sont cités, alors des poèmes de Baudelaire et aussi des poèmes de Théophile Gautier, parce que Théophile Gautier était très célèbre à l'époque. Bon, on le connaît moins, mais lui était vraiment très célèbre, beaucoup plus que Baudelaire à l'époque dont on parle.
Oui. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans la mise en scène, c'est on assiste un peu. Alors, c'est d'abord très très dynamique et vivant, et on assiste un peu à des, comme si c'était des scénettes finalement qui s'enchaînent. Vous savez, avec ces fondus tout d'un coup, le noir, et puis on repart sur autre chose.
C'est parce qu'on a un déroulement dans le temps. En fait, la pièce s'étend de 1846 à 1957, et en fait, on a un déroulement dans le temps pour bien installer toute la problématique entre Baudelaire et Apollonie. Donc, effectivement, j'ai choisi de faire ça par petites touches où on voit chaque élément de l'environnement d'Apollonie, de la manière dont ils se sont rencontrés et des problèmes que ça posait, quoi. Donc, ça donne un peu ce que vous dites, quoi.
Oui. Alors le décor est simple, mais d'une grande beauté, je trouve, avec ces rideaux en fond, ce canapé en premier plan, et les costumes sont magnifiques, hein.
Oui. Alors le décor, c'est que Apollonie était comme un bijou. En fait, c'est comme un écrin, vous voyez, dans lequel Moselman, le riche industriel, l'a mis. Comme un bijou, comme ça, parce que Moselman, pour moi, voulait que le monde entier, c'est pour ça qu'il a fait la statue, en tout cas, c'est ce que raconte le roman, le monde entier admire la beauté d'Apollonie. Et donc, il était fou de sa beauté, de son intelligence, etc. Donc, l'idée du décor, c'est ça. Quant au costume, c'est un travail énorme qu'a fait Frédéric Morel, qui fait qu'on a une variété dans les costumes pour montrer justement le déroulement des temps et puis une évocation de l'époque, quoi. Voilà.
Oui. Alors, la pièce, on va peut-être redonner les dates. Oui. La pièce se joue jusqu'au 5 mai.
Oui, c'est ça.
C'est ça, le dimanche et lundi. Excusez-moi, c'est moi finalement qui donne les dates à 19h.
Oui, à 19h, oui, c'est ça.
On cite
au studio Héberto. Ouais.
Au studio Héberto dans le 17e. Il reste encore de la place, mais moi quand j'y étais, il y avait une belle salle, c'était quasiment complet.
Oui. Vous êtes venu quel jour?
Moi, je suis venu le lundi.
Le lundi? Ah oui, le lundi. Ah oui.
Voilà. Ouais. On va peut-être citer les comédiens?
Oui, bien sûr. Donc vous avez, dans le rôle d'Apollonie, vous avez Roxane Le Texier, qui s'est fait remarquer dans les producteurs de Michalik. Donc pas mal de gens ont dû la voir dans cette pièce-là.
Alors un petit mot justement sur Apollonie, enfin sur Roxane. Au départ, elle est, je dirais pas insignifiante, mais elle est plutôt une femme classique, et elle devient finalement très charnelle à la fin. Est-ce que c'est voulu ?
Oui, parce qu'en fait, dans ma conception, il fallait, comment on peut dire ça ? Il fallait rendre les personnages, disons, pas des personnages mythiques, mais des personnages comme nous tous, quoi. C'est-à-dire que le rapport entre Baudelaire et Apollonie, bien que ce soit des personnages historiques et tout ça, ils vivent les problèmes de désir comme tout un chacun. Et donc, qu'on revienne vraiment à quelque chose que le public peut vraiment ressentir dans sa vie, quoi. C'est pas quelque chose qui est différent de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour amener progressivement le public vers cette passion, quoi. Voilà.
Oui. Alors, Charles Baudelaire est interprété par Luc Béton.
Oui, Luc Béton, qui est
Personnage un peu, je dirais, terne, renfrogné, renfermé, mais voilà, c'est Baudelaire.
C'est les débats et c'est le problème de l'interprétation et l'image qu'on a de Baudelaire, parce que Baudelaire étant évidemment plus connu que Apollonie, tous les gens ont une image du personnage. Et donc, il y en a qui sont surpris par, effectivement, mais je leur dis, Baudelaire avait une relation avec Apollonie de fascination. Il était très impressionné par elle, très impressionné par sa gaieté, par sa beauté, par sa... Et donc, elle, ça représentait un peu la vie. Baudelaire, il est très très sombre, très terne, très... Et donc, il représente un petit peu quelque chose qui est de l'ordre du noir, quoi, de quelque chose de plus inquiétant, quoi. Et donc, c'est cette confrontation entre les deux qui donne une espèce de... Comment on peut dire ça,
une espèce d'alchimie, cas une passion.
C'est ça, une espèce d'alchimie de passion qui est très étrange, quoi.
Oui. Et d'ailleurs, il lui répète sans cesse, il écrit en tout cas à celle qui est trop gaie.
Oui, à celle qui est trop gaie, c'est un poème qui est dans Les Fleurs du Mal, que j'ai voulu mettre en exergue parce qu'en fait, Sainte-Beuve, qui était un critique du 19e, a dit que c'était le plus beau poème des Fleurs du Mal. Et à celle qui est trop gaie, ça résume bien Apollonie, qui est en même temps trop gaie, qui était vraiment formidable, et en même temps qui cachait derrière une tristesse, etc. Enfin, il y avait les deux dans cette femme, mais c'est surtout que c'est ça qui est resté à travers le poème de Baudelaire. Et c'est une image. Il y a, comment dirais-je, Thierry Savatier, qui est son arrière-petit-neveu, qui est venu voir la pièce et qui a fait un excellent ouvrage sur elle, a intitulé son livre « À celle qui est trop gaie ».
Très bien.
Ça représente bien Apollonie, quoi.
Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci.
Je voulais citer aussi les autres comédiens. Il y a Alexandre Triaca qui est Alfred Moselman, l'amant. Vous avez également Clara Starkey qui joue la sœur d'Apollonie. Et vous avez Bruno Biazanski qui joue Théophile Gautier. Voilà. Et donc, il y a 5 acteurs pour cette pièce. Du dimanche et lundi à 19h.
Voilà, tout à fait, au studio Héberto. Alors, on va écouter un extrait donc d'ouverture de Lohengrin, hein, de Wagner, parce que je crois qu'il y a un passage, la musique est très importante dans le spectacle, et il y a un passage de Lohengrin.
Oui, c'est ça, j'ai choisi ce passage parce que ça représente vraiment le rêve, quand c'est l'arrivée de Baudelaire dans la vie de Apollonie, quoi.
Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview, Georges Abou. Et donc, je rappelle Apollonie et Baudelaire au studio Héberto. Merci, au revoir.
Je vous remercie, au revoir.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Je me suis donc dirigée au pied de la butte Montmartre, à la Halle Saint-Pierre, formidable lieu d'art, de culture, d'exposition. Et je reçois Martine Luzardi. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous dirigez donc cette fameuse Halle Saint-Pierre depuis 1930 ans. Et vous êtes commissaire de la formidable exposition qui est en ce moment à la Halle Saint-Pierre, dont nous allons parler, l'art brut en Iran. Alors, il y a 24 artistes qui sont présentés. C'est incroyable parce que les œuvres sont marquées d'abord par les mythes ancestraux de ce pays, de l'Iran, de la culture perse, mais aussi par leur propre vision du monde. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que cette exposition est saisissante, je trouve. Elle est bouleversante, elle est saisissante de vérité. Et nous découvrons à travers les œuvres, les grandes épopées, hein, je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi une vision peut-être plus singulière de chaque artiste sur sa vie ou sa culture. Alors, question tout de suite comme ça. Peut-on dire que les artistes de l'art brut sont, je dirais, dénués de politiquement correct, enfin, en tout cas, ils ne cherchent ni à plaire, ni à finalement expliquer, mais juste à exprimer comme un peu une nécessité, hein. Bon, en gros, ma question, est-ce qu'ils échappent aux normes académiques ?
Ben écoutez, l'exposition s'appelle « L'art brut d'Iran ». Donc, tout est dans le titre, « L'art brut et l'Iran ». Donc, ce sont des œuvres qui viennent d'un pays lointain qu'on n'a plus appris à connaître, évidemment. Donc, on découvre cette culture trois fois millénaire avec ses mythes, ses récits épiques. Et puis, en même temps, ce sont des œuvres qui sont inscrites dans leur contemporanéité. C'est-à-dire, elles expriment la vie de tous ces auteurs-là avec leurs émotions, leur rapport à l'imaginaire, leur vécu. Et tout ça, c'est une synthèse un peu, disons, de l'art brut. Vous savez que l'art brut est cette invention de Jean Dubuffet après-guerre, qui est allé chercher l'altérité mentale et psychologique dans un ailleurs. Au début, ses premières prospections étaient dans les hôpitaux psychiatriques, donc c'était l'art des fous, bien que l'art brut ne soit pas que l'art des fous, mais c'était aussi les visionnaires mystiques ou les médiumniques ou les autodidactes originaux comme Facteur Cheval, et qui avaient tous ce besoin irrépressible de créer, non pas pour plaire, non pas pour être connus, non pas pour vendre, mais parce que c'est chez eux, c'était existentiel. Alors évidemment, le rapport à la culture et aux normes est extrêmement éloigné. On n'échappe pas à la culture, même si Jean Dubuffet avait des positions anticulturelles, mais il s'opposait à la culture dominante, c'est-à-dire la culture normative avec ses règles, ses classifications, et qui en fait était inhibante, stérilisante, puisqu'elle éloignait de l'instinct créateur. Donc toute sa démarche et ses écrits et ses prospections ont été pour réhabiliter la création, pour être au plus près du moment premier de la création. Oui. Donc là, dans l'art brut d'Iran, c'est ce qu'on retrouve. Alors la culture est en toile de fond, vous avez les récits épiques et aussi l'islam qui est très présent, mais un islam syncrétique, c'est-à-dire c'est pas l'islam au pied de la lettre, mais c'est un islam qui est quand même transformé par cette culture ancienne qui préexistait évidemment à l'islam avec ses grands récits, ses grands héros. Et on voit que les auteurs dedans, lorsqu'ils ont recours à l'islam, c'est pas pour vénérer la religion, mais c'est pour choisir dans l'islam et dans leurs récits épiques des personnages qu'ils vont, à travers lesquels ils vont eux-mêmes se déifier, c'est-à-dire transcender leur existence quotidienne ou les drames de l'existence, et pour à travers la création retrouver la dignité de vivre, c'est-à-dire ce n'est pas je pense donc je suis, notre credo cartésien, mais c'est je crée donc je suis.
Oui.
Donc c'est une réhabilitation et une revendication de l'acte créateur pour refaire le monde à sa juste mesure.
Oui, parce que bien souvent, ces artistes, ces 24 artistes, ont connu un choc dans leur vie ou une période très troublée. Et moi, j'ai pris autant de plaisir, enfin, beaucoup de plaisir à lire leurs petites histoires, les cartels qui est à côté, qui accompagnent les œuvres. Les œuvres sont très très belles, vraiment. Je vais y retourner d'ailleurs.
Vous faites plaisir en me disant ça. Évidemment, je bois vos paroles. C'est une reconnaissance du travail que l'on fait, mais c'est aussi une reconnaissance de l'art brut. Mais en même temps, je suis étonnée de cet accueil, parce que c'est quand même plusieurs expositions qu'on fait autour de l'art brut. On a montré le Japon, le Brésil, les États-Unis, enfin beaucoup de cultures non occidentales. Et l'accueil, évidemment, était très favorable. Mais là, il est vraiment extraordinaire. Et je me dis, c'est peut-être parce que à l'époque actuelle, enfin, on connaît aussi, vous parliez des drames que connaissaient tous ces auteurs, tous ces créateurs. Mais on vit une existence, enfin, on vit en ce moment une période qui nous confronte aussi à des drames. Et peut-être que c'est comme un contrepoison, c'est-à-dire, à travers cette exposition et ses œuvres, on voit en effet des hommes et des femmes qui ont connu des drames existentiels, mais qui ne les ont pas mis à terre. À travers la création, ils se redressent. Et peut-être qu'on voit dans cette exposition des héros, puisque vous dites qu'ils sont leur vie, leurs œuvres sont magnifiques. On héroïse un peu ces artistes-là, mais à travers eux, on a peut-être un peu d'espoir ou un peu de contrepoison par rapport à ces temps un peu obscurs.
Oui, et puis ils sont restés quand même, alors que ce sont des œuvres d'aujourd'hui, des années 2020, enfin pour la plupart, très très contemporaines, eh bien ils sont restés avec des techniques ancestrales bien souvent, hein. Des vieilles machines.
Oui. Et puis, c'est aussi le dessin, évidemment, le dessin, la sculpture, la peinture, mais c'est aussi avec les moyens du bord. J'imagine que s'ils avaient eu accès à d'autres savoirs, ils auraient utilisé ces savoirs, plus peut-être la photo ou des choses comme ça, mais là, ils ont utilisé, évidemment, le tissage, mais chaque fois, en se réappropriant des techniques anciennes de façon très individuelle et de façon aussi contemporaine. Et celui Sissi qui fait les tapis, évidemment le tapis, le tissage, c'est une tradition non seulement perse, iranienne, mais c'est mythologique. Le fil d'Ariane, Pénélope, ce sont vraiment les grands mythes qui sont redécouverts à travers cette exposition. Mais ils les utilisent aussi, ils les détournent et en même temps, la technique elle-même est détournée puisqu'ils découpent des morceaux de tapis pour réinventer une histoire qui mélange l'histoire évidemment ancestrale mais sa propre mythologie à lui, parce qu'à travers les héros que l'on voit, c'est lui qui se héroïse. Il devient le héros de sa propre existence puisque il arrive à transcender tous les événements de sa vie. Et c'est peut-être ça qui nous touche et qui nous impressionne. Et en plus, tous ces auteurs-là vivent en Iran, ont vécu ou sont morts en Iran, et toutes les œuvres viennent d'Iran. Donc c'est aussi une autre vision que l'on a de ce pays-là, où l'actualité est mise de côté, pour nous donner à voir justement cette culture très très ancienne, et puis des hommes et des femmes qui, dans leur pays, arrivent à ne pas perdre le lien avec leur imaginaire, et à travers la création, donner justement forme à cet imaginaire qui est d'une richesse incroyable, et à travers leur inventivité, leur spontanéité et cet instinct créateur, donner une forme nouvelle à cet imaginaire qui a puisé dans les mythes anciens.
Oui, je pense.
Donc on est face à quelque chose de très ancien et en même temps de très contemporain.
Qui est aujourd'hui, je pense à Asbahi Ali Reza, qui était dans un bazar à Téhéran, il faisait des tapis, il est chauffeur de taxi, personne ne l'a aidé, et maintenant il vit de ses créations.
L'art brut, c'est ça. Oui, mais en même temps, il vit de ses créations, mais il ne l'a pas fait pour vivre de sa création. Quand on dit il vit de sa création, c'est pas matériellement. S'il vit matériellement, ça l'aide à gagner de l'argent et à vivre, mais c'est pas pour ça qu'il l'a fait, parce qu'il est chauffeur de taxi, donc il gagne sa vie en étant chauffeur de taxi. Mais chauffeur de taxi, c'était pas le but ça remplit pas sa vie émotionnellement et ça ne l'enrichit pas sa vie. Donc il avait besoin de la création pour donner un sens à tout ça. Et à travers toutes les épreuves de la vie, arriver à finir en étant chauffeur de taxi, on sait bien, il vit comme ça matériellement, il peut subvenir à ses besoins, mais c'est pas une raison de vivre. et c'est pas le but de sa vie. Donc la création, au travers de la création, il a donné un véritable sens à sa vie.
Et la création, l'impression qu'elle est dénuée de tout opportunisme, et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien.
Oui.
Je pense à Abol aussi, Abol Faz, l'ami ami Bidokti, le sculpteur sur bois qui sculpte dans le coffre en pleine rue en Iran de son taxi parce qu'il n'a pas vraiment d'établi.
Non, il n'a pas d'établi.
Et ça, c'est aujourd'hui, quoi. C'est en ce moment.
Voilà, c'est aussi une réappropriation du rapport à la création. Parce que l'artiste professionnel obéit à des règles et à des habitudes. Tandis que là, ce sont d'ailleurs en art brut, Dubuffet n'aimait pas dire des artistes, il aimait dire des créateurs. Et il appelait pas ça des œuvres d'art, il appelait ça des ouvrages. C'était l'ouvrage de l'homme du commun.
Oui,
donc là, on retrouve en effet l'homme du commun, c'est-à-dire monsieur tout le monde, vous, moi, qui retrouve le chemin de la création, mais qui s'autorise à créer indépendamment des règles et des normes de la société.
Oui, et
c'est ça qui nous plaît.
Oui, il y a Asbahi aussi, Asbahi Alireza, qui était l'aîné, c'est ça, l'aîné de 7 enfants, je crois, qui soutenait sa famille et qui avait un don pour la tapisserie, qui était un fils de tailleur.
Oui, c'est mais ce sont tous des vies comme ça, c'est-à-dire des vies ordinaires, extraordinaires. Oui. La vie ordinaire, parce que c'était des gens avec des métiers de tous les jours, avec des trajectoires sociales extrêmement simples, et c'est extraordinaire parce que ça ne les a pas empêchés d'avoir ce besoin, enfin surtout ce besoin de créer et de donner naissance au geste créateur, c'est-à-dire que leur vie banale ou leur vie simple n'a pas été un handicap, au contraire, ça a été le moment décisif pour créer, c'est-à-dire c'est ce besoin irrépressible de donner une forme à son monde intérieur, c'est-à-dire qu'on a des désirs d'un monde différent, on a une imagination sans bornes et on n'est pas arrêté parce qu'on n'est pas passé par des écoles, parce qu'on n'a pas eu des maîtres pour vous dire comment peindre ou comment dessiner, on décide de passer à l'acte. Voilà, comme ça, sans frein et sans répression et sans inhibition.
Ouais. Et il y a Kazem. Alors ça, c'est véridique. Il était cet homme atteint de d'épilepsie qui cherchait à réparer sa toiture est tombé. Et ses crises ont vraiment disparu.
On va appeler ça un miracle.
C'est un miracle.
Et on a envie de voir un miracle là-dedans. Mais en fait, c'est un fait extraordinaire. Oui, ça a disparu. On ne sait pas pourquoi. Les médecins vous trouveront bien une raison, évidemment, un choc après un autre choc. Et puis voilà. Mais il y avait quelque chose en lui qui était plus fort que tout. Et puis, alors, vous disiez tout à l'heure que toutes ces trajectoires d'artistes, ils sont passés à l'acte, ils se sont mis à créer après un trauma. Mais il y a bien des artistes professionnels aussi qui ont eu des traumas et qui sont passés à l'acte. Donc, il faut pas faire un lien direct entre le trauma et la création. On peut aussi ne pas avoir facteur cheval, par exemple, n'a eu aucun trauma. Si ce n'est qu'un jour il a buté sur une pierre, dit la légende, ou la vérité, on ne saura jamais, et qu'il a trouvé cette pierre magnifique et que ça a été le geste déclencheur. Donc le trauma peut être un geste déclencheur, mais il peut y avoir aussi une vision, un moment où tout d'un coup tout s'éclaire et vous passez comme ça à la création parce que vous avez une idée géniale où vous voulez rompre avec votre quotidien et plus rien ne vous en empêche, vous osez passer à l'acte. Donc le trauma est un des éléments, mais ce ne sont pas tous les éléments, mais c'est cette création qu'on a en nous. Vous savez, tous les enfants, ils n'ont pas besoin de trauma pour créer. Ils créent librement et sans être poussés à la création. C'est pour eux naturel. Seulement après, quand on rentre dans le jeu social, l'école, l'éducation, la religion, enfin tout, le travail, vous éloigne de ce rapport à la création. Ouais. Et puis il y a des gens qui ne l'ont pas perdu ou qui veulent le retrouver parce que pour eux, c'est tellement important d'être dans cet état-là, parce que la création est un état totalement différent, c'est un état de gratuité, c'est un état de désintéressement, c'est un état d'émerveillement, d'enchantement, où vous retrouvez justement cet imaginaire qui vous permet de supporter le réel. Le réel n'est pas toujours enthousiasmant. Il est plein de contraintes, plein d'interdits et surtout il est pesant. Et vous avez besoin d'un autre registre, d'un autre monde pour pouvoir supporter ce réel. Et bien souvent, on a perdu le chemin vers l'imaginaire pour pouvoir mettre au monde justement un autre monde qui vous permet, un monde, on va dire, transitionnel qui vous permet de supporter le réel, le quotidien ou tout ce qui est un poids et tout ce qui vous oblige à. C'est-à-dire, et donc là, on est étonné de voir toutes ces œuvres qui sont l'exemple même, le modèle même de la gratuité, du désintéressement, même s'ils vendent leurs œuvres. Le problème, c'est pas ça. On peut vendre ses œuvres et avoir la reconnaissance et rester dans le désintéressement parce qu'ils ne le font pas pour les autres, ils le font d'abord pour eux-mêmes, pour le grand autre qui est en soi. Ils ont un public, mais un public intérieur. Et le public, les médias, la reconnaissance, les musées, le marché, c'est vraiment secondaire. C'est pas la raison pour laquelle ils se mettent à créer.
Mmh, très bien. Martine Luzardi, merci beaucoup pour ces propos passionnants. Je rappelle.
Merci d'avoir aimé cette exposition.
C'est donc l'art brut d'Iran jusqu'au 31 juillet au pied de la butte Montmartre, 2 rue Ronsard dans le 18e. Merci. Au revoir.
Bonsoir.
On écoute Lia de Martin Corton.
Ouais, ça nous pend au nez, on aura la puce à l'oreille. Elles sont déjà sur nous, ils sont prêts à tout, à mettre les bouchées doubles. On serait pris la main dans le sac, si à l'avenir ça fait couac, couac. Obéir au doigt à l'œil, à guetter un pas de côté, que tout sentier détourné, le sort que respecte.
Oui. Enseigne pour
le danger c'est l'IA. Le danger c'est l'IA. Le danger c'est l'IA.
Je demande qu'est-ce que l'IA.
Ils ont du fil à tordre, les gentils donneurs d'ordre. Quant à leur numérique, une vie tient qu'à un clic, un souvenir dressé, qu'à la place du cerveau, orthographe une puce, toujours au grand flou, tout un formatus.
Oui, SNIA pour
le danger c'est l'IA. Le danger c'est l'IA.
Des élites, les besoins on les dicte. Ils ont de fil à retordre, gentils donneurs d'ordre. Quant à l'ère numérique, la cadence est au clip.
Oui, mais c'est l'IA, ouais. Danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA.
Serait que le masque qu'à l'école des élites, de besoin on les dicte. Ils ont du fil à tordre, les gentils donneurs d'ordre. Quant à leur numérique, la cadence est au clic. Oui, mais c'est l'IA, le danger c'est l'IA. Danger c'est l'IA, danger c'est l'IA. Le danger c'est l'IA.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Nous venons d'entendre l'IA de Martin Corton. L'IA, c'est L-I-A. Vous, d'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez vous procurer le titre sur les plateformes. Vous êtes toujours donc sur IDFM Radio. Et je me redirige au studio Héberto, ce théâtre à Paris dans le 17e. Je reçois Benoît Marbeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Benoît, on vous connaît bien. Vous venez, vous êtes venu régulièrement à la radio. Vous êtes auteur, metteur en scène. Vous avez écrit une vingtaine de pièces, c'est impressionnant. Alors vous avez un sens du dialogue qui est très aiguisé hein, dans toutes vos pièces. La dernière pièce, c'est La marraine amoureuse. Voilà, donc au studio Héberto jusqu'au 27 avril. Alors la pièce se situe pendant la Grande Guerre, Première Guerre mondiale. Anatole, un soldat, va vivre une relation avec sa marraine de guerre Clémence. Pourtant, rien ne semblait les rapprocher. Vous allez nous en dire plus, Benoît Marbeau. Les thèmes de vos pièces, quand même, tournent souvent autour de la guerre. Je pense à Opération Matryoshka. C'est un thème récurrent chez vous.
Oui, bah, c'est-à-dire que le thème de la guerre permet de créer une tension aussi entre les personnages, puisque quand il y a la guerre ou la menace de guerre, il y a souvent des sentiments d'urgence. Donc ça oblige mes personnages à se révéler plus vite, à faire preuve peut-être un peu plus tôt ou un peu plus vite de leurs sentiments, de leurs émotions, de leurs qualités aussi. Donc sur le plan proprement dramaturgique, évidemment, c'est toujours très intéressant de mettre ces personnages en situation. Voilà. Mais là, c'est une situation... Donc, bon, l'idée m'est venue, je suis tombé par hasard sur un récit de soldats et c'est un petit peu ça qui a déclenché l'histoire. J'ai lu d'autres récits de soldats, donc ça se passe pendant la guerre de 14 et c'est le thème, ce sont ces fameuses marraines de guerre, c'est-à-dire c'était ces soldats qui avaient la possibilité d'entretenir une correspondance épistolaire avec une inconnue la plupart du temps, c'était une femme. Et ces femmes qui acceptaient d'écrire à des soldats provenaient un peu de tous les milieux sociaux. Et donc je raconte cette rencontre improbable, puisque normalement un soldat n'était pas censé rencontrer sa marraine de guerre, mais en réalité souvent ces rencontres ont eu lieu et parfois elles ont donné lieu à des histoires étonnantes comme celle que je raconte.
Alors du coup voilà, c'est la question que je me posais, vous êtes tombé sur quoi, des lettres
Oui, des lettres, des récits. Oui, des témoignages. Oui, je me suis nourri de beaucoup de témoignages. Et puis, la guerre de 14, vous savez, c'est pas si lointain que ça. Mais mes deux grands-pères ont fait la guerre de 14. Hein, donc, il y en a un qui n'en parlait jamais et l'autre qui m'en a parlé un peu de temps avant son décès, d'ailleurs. Et donc, ça aussi, ça nourrit un petit peu mon imaginaire, parce que j'aimais beaucoup mes grands-parents et j'avais des relations donc aussi très importante avec eux, et ça nourrit aussi ce texte, ce spectacle, oui. Mais le thème, c'est aussi la guerre, c'est en arrière-fond. Le thème, c'est aussi le thème du couple, hein, le thème de la rencontre amoureuse entre deux personnes d'âge différent, de milieux social complètement différents. Ils ont des références complètement aussi opposées en termes de croyances, en termes de morale. Bon, et je montre que finalement, l'amour est toujours possible aussi entre ces deux personnes, et c'est ça que raconte ma pièce.
Oui, lui, Anatole, le soldat, est beaucoup plus jeune qu'elle.
Oui.
Et pourtant, c'est lui chez qui le sentiment va se déclencher.
Oui, je raconte aussi ce qui aujourd'hui n'est peut-être pas trop dans l'air du temps, mais je dis que les histoires d'amour commencent par le désir, tout simplement, et le couple commence par le désir. C'est ça qui entretient, qui crée le couple aussi. C'est ça qui fait que les hommes et les femmes se rapprochent et qu'ils ont besoin les uns des autres. Donc c'est ce jeune homme qui profite de cette permission pour rencontrer une femme est aussi animé par un désir très violent qui est lié aussi au fait qu'il est est à peu près persuadé qu'il va bientôt mourir, comme la plupart de ses camarades. Donc cette importance aussi, cela change, cela crée aussi une tension entre les personnages, dont j'espère que le public va pouvoir s'amuser aussi, parce que il y a des passages que j'ai voulu drôles aussi, d'incompréhension, de cette femme aussi, elle est évidemment très choquée par ce personnage qui n'est pas de son milieu. Et donc, mais je crois que les comédiens aussi s'amusent à jouer ces différences et que le public aussi s'en amuse.
Oui, alors deux comédiens hein, sur scène, Sylvia Roux qui interprète Clémence et Jean-Nicolas Guette qui interprète Anatole le jeune soldat. On rentre vraiment, je trouve, dans l'âme, enfin dans le, j'allais dire dans le quotidien de ce soldat. On voit lorsqu'il part, il a des, comment on appelle ça, vous savez, des permissions.
Oui.
Et on voit qu'il tombe, voilà, il va tomber amoureux de cette femme et après il doit repartir.
Oui.
Donc c'est ça qui est quand même formidable dans votre texte, dans vos dialogues, c'est que vous arrivez à nous faire vivre. On a l'impression d'être sur le, pas le champ de bataille puisqu'il en est sorti, mais voilà, juste à côté.
Bah, ça me fait plaisir que vous me disiez tout ça. Oui, j'espère que moi c'est ce que j'ai voulu. Alors maintenant, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu effectivement que l'on croit à cette histoire, même si elle a des caractères complètement, enfin très originaux. En tout cas, j'ai voulu qu'on y croit parce que, je pense, comme le dit d'ailleurs Anatole, il pense l'amour est ce qui rend la vie supportable. Enfin, c'est quand un homme et une femme se trouvent, il y a rien de plus merveilleux dans la vie, quoi. Il y a rien de plus beau et il y a rien qui peut nous donner autant envie de vivre, même quand la mort tourne autour de nous. Et je pense que j'ai voulu aussi écrire une pièce optimiste, montrer que finalement tout est possible, mais il faut y croire, quoi. Faut y croire. C'est aussi, je pense, la leçon que nous donnent les personnages.
Est-ce que vous savez s'ils ont vraiment existé? Si Anatole a existé, Clémence?
Je suis sûr qu'ils ont existé. Je les ai pas rencontrés personnellement, mais je suis sûr qu'ils ont existé parce que j'ai lu des récits qui laissaient entendre ce genre d'histoire. Donc, si je me souviens, la manière dont mon grand-père me parlait de la guerre de 14, de la manière dont ma grand-mère aussi en parlait, puisque c'était aussi, elle a aussi cette génération a quand même beaucoup souffert aussi de cette période. Je suis à peu près sûr que ces personnages ont existé et que, alors je sais pas s'ils se sont dit ce que je leur fais dire, mais je pense que des histoires analogues se sont passées pendant la guerre. Oui.
Oui. Alors la mise en scène, Benoît Marbeau, nous sommes dans un parc.
Oui.
Moi, j'ai imaginé que c'était un parc vers le parc Monceau.
Oui, c'est le parc Monceau.
Voilà.
Oui, oui.
Avec une toile de fond, avec ce fameux étang, voilà, du parc, un banc, un réverbère, des bruitages, bruitages d'obus.
Oui, il y a plusieurs bruitages, c'est-à-dire que je me suis aussi servi de sons qu'on pouvait entendre à l'époque pour essayer de remettre un petit peu cette ambiance. C'est sûr que le décor est assez simple. Il y a eu aussi par contre on a fait un travail important sur les costumes. Philippe Varache aussi a fait attention puisque la pièce se passe en quatre tableaux qui correspondent à quatre années différentes. Le premier tableau, c'est la rencontre de Clémence et d'Anatole en 1915. Ensuite, ils vont se revoir au cours d'une permission en 1916. En 1917, ils sont mariés. Ils sont mariés et Clémence est enceinte d'ailleurs. Et puis ensuite,
on ne révèle pas tout.
Oh, voilà, faut pas tout dire, faut pas tout raconter. Hein. Et la mode aussi change beaucoup. Les femmes aussi changent beaucoup. C'est aussi une pièce sur les rapports entre les hommes et les femmes, puisque comme le dit Clémence, Anatole dit, les femmes nous rendent responsables de la guerre et les femmes vont évidemment beaucoup s'émanciper pendant la guerre de 14. Elles vont apprendre des métiers, elles vont revendiquer une certaine indépendance. l'indépendance, elles vont ne serait-ce que réclamer le droit de vote, qui d'ailleurs, de manière tout à fait honteuse, leur a été refusé. Hein. L'habillement change aussi beaucoup. Hein. Le corset disparaît, les femmes peuvent mettre des pantalons, les chapeaux, quand on regarde ne serait-ce que les chapeaux au début de la guerre et ce qu'ils étaient à la fin de la guerre, ça n'a absolument plus rien à voir. Donc avec Philippe Varache, on a aussi beaucoup travaillé ça pour montrer que cette période était aussi une période de bouleversement profond dans les références, dans l'habillement, dans l'attitude. Alors c'est un petit peu ça qui compense, si je puis dire, la simplicité du décor.
Oui, c'est vrai que les costumes sont très sophistiqués, magnifiques costumes, je pense... Aux robes longues, enfin aux jupes longues qu'elle peut qu'elle peut avoir, au chapeau comme vous le disiez tout à l'heure, ou même à lui ses uniformes d'officier.
Oui, on a aussi fait un travail. Philippe Varache aussi s'est amusé à rechercher des documents d'époque pour être le plus fidèle possible aux costumes que portaient les jeunes gens, les soldats et les femmes d'ailleurs de cette époque.
Il y a cette voix off un moment avec la mère.
Oui, il y a plusieurs. C'est la sœur de Clémence qui s'appelle Marthe et qui lui reproche de s'être mariée, puisqu'elle lui dit Clémence est une veuve, en fait elle a perdu son mari tout au début de la guerre, mais on apprend qu'en fait elle venait tout juste de se marier, donc ce mari elle l'a quasiment pas connu. Et puis on peut penser aussi que ce mariage n'était pas très réussi, parce que les premiers temps de leur mariage n'ont pas été heureux. Et donc elle touchait une pension de veuve de guerre, et cette pension, en se remariant, elle l'a perdue. Donc sa sœur lui en fait le reproche, et puis lui dit aussi que c'est une grave erreur de se remarier. C'est une grave erreur de se remarier en plus avec un soldat, c'est-à-dire un homme qui fait la guerre et qui risque de ne pas revenir. Elle lui oppose des valeurs d'indépendance, de liberté, et puis surtout aussi elle lui reproche de faire un enfant. Donc là on est aussi devant des choix complètement différents. Les deux sœurs dans cet affrontement verbal font apparaître toutes leurs différences.
Oui, elles n'ont pas la même vision du tout de la vie et et de l'amour.
Oui.
Et puis la musique est importante. Musique, alors que vous avez choisie hein, de manière très délicate, musique des années...
Ce sont ces années-là,
1920,
oui.
1900,
il y a de tout entre
des
oui.
Chansons.
Oui, c'est entre 1905 et 1920. Les dernières, oui, c'est ça. Mais la dernière, c'est dans ces années-là, 1920. Oui, c'est des petits bouts de chansons. Hein, on n'entend que simplement à peine une minute de chansons.
Des extraits,
hein, c'est des extraits. Mais je trouve que la chanson, ça permet de nous replonger aussi dans une époque beaucoup plus que ce qui est visuel. On m'avait suggéré de projeter par exemple des photos de la guerre ou de cette époque, et je pense que d'abord le visuel est extrêmement puissant, et j'ai peur que donc ces visuels finissent par écraser ce qui se passe sur scène, c'est-à-dire le décor et puis les costumes et puis surtout le jeu des comédiens.
Oui, vous avez choisi vraiment
et donc j'ai préféré j'ai préféré mettre l'accent sur le jeu des personnages, et puis donc ce qui est suggéré par le son, par ces morceaux de chansons, ces paroles de soldats, des chansons que chantaient parfois les soldats, notamment la chanson de Craon qui est très connue, où on voit tout le désespoir aussi de ces soldats, et surtout leur douleur aussi quand ils revenaient en permission et qu'ils étaient confrontés à la vie civile et à la vie des grandes villes aussi, parce que n'oubliez pas que la plupart de ces soldats étaient des paysans, et quand ils rentraient chez eux, ils étaient obligés de traverser les villes, et là ils voyaient un monde qu'ils ne connaissaient pas, et ils avaient l'impression qu'ils se faisaient tuer pour que les gens des villes continuent de mener la belle vie. Donc c'est un petit peu tout ça aussi qui transparaît dans ces
La marraine amoureuse, c'est au studio Héberto, pièce de Benoît Marbeau jusqu'au 27 avril. Alors c'est du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 17h. Magnifique évocation d'une histoire d'amour pendant la Grande Guerre, hein, entre donc une marraine de guerre et un soldat. Voilà, il va y avoir une belle histoire. Allez voir ce spectacle. Benoît Marbeau, vous avez un public scolaire?
Pour l'instant, non. Vous savez, c'est difficile les scolaires. Faut les préparer,
Oui, il faut les sensibiliser.
Oui. Sinon, pour vraiment que ça marche, il faut que les scolaires soient bien préparés. Mais pourquoi pas, bien sûr.
Très bien. Donc, c'est La Marraine Amoureuse, pièce de Benoît Marbeau, dont vous êtes également le metteur en scène. Un mot, je crois qu'il y a le texte hein, également, hein, bien
oui,
sûr, comme toujours, Benoît.
Qui est publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Vivons les mots, c'est ça. La collection En scène, pardon. C'est la collection
En
scène.
Oui. Et on rappelle donc toutes les personnes du spectacle, hein,
oui.
Les comédiens bien sûr et les décors.
Il y a Sylvia Roux qui joue Clémence, Jean-Nicolas Guette qui joue Anatole, le jeune soldat. Les décors et les costumes sont de Philippe Varache. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Benoît. Et on vous souhaite plein de succès pour cette magnifique création, La Marraine Amoureuse. Chers auditeurs, je vais maintenant vous quitter pour cette émission de Toute la culture que j'aime. Je vous retrouve dans 15 jours et vendredi prochain, vous retrouvez Marie-Laure. Très bonne soirée.